C'est un peu la fin de l'année, c'est un peu le temps des messagers, hein. Il y a le messager boiteux, il y a toutes sortes de messages. On aura bientôt les astrologues qui vont nous faire leur catalogue de prévisions pour 2019, etc. Enfin voilà, je veux dire, il y a des nouvelles, il y a plein de choses qui vont venir. Et puis le thème que j'ai ce matin, ben, que j'ai sur mon cœur, que j'aimerais partager avec vous, c'est sur le thème les messagers de Dieu. Et les messagers de Dieu, eh bien, finalement, sont porteurs d'un message. Et nous sommes tous porteurs d'un message. Alors, quand vous regardez la télévision, hein, je veux dire, il y a beaucoup de publicités qui sont porteurs de messages. Je crois qu'il y a M. Macron qui est occupé par pas mal de porteurs de messages aussi. Ils sont habillés en jaune. Bon, il y a quelques casseurs là-dedans parce qu'il y a encore d'autres enjeux d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais voyez, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, le message, il est en chacun de nous. Nous sommes tous porteurs d'un message. Nous avons tous quelque chose à transmettre, quelque chose qui est là dans nos vies. Déjà, ne serait-ce qu'avec nos enfants, dans notre famille, nous-mêmes, on est porteurs de quelque chose de la famille qu'on va transmettre plus loin. Et des valeurs, comme on avait parlé avec les enfants par rapport à la pédagogie de la confiance. Ça me rappelle que je me souviens quand je vois la crèche, là, que j'avais joué Joseph quand j'étais au Kindergarten à Vienne. Je me vois bien jouer Joseph à 6 ans, tout en suisse allemand. D'ailleurs, c'est à peu près le niveau de suisse allemand que j'ai 6 ans. C'est pas mal, je me débrouille. Mais effectivement, je veux dire, il y a des choses dans nos vies où on est porteur de messages, et même si je m'étais complètement perdu, c'est des choses qui reviennent et où Dieu nous rappelle, Dieu nous dit les choses, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est juste voir deux, trois choses, comment Dieu y fait dans le message, comment il gère nos messages, comment il gère nos vies, comment lui gère le message aussi. Une des choses qui m'a profondément énervé ces derniers temps, c'est que j'ai voulu acheter une crèche parce qu'on a décidé, dans le cadre de la pastorale, d'avoir un stand donc au sentier et puis de pouvoir présenter une crèche. Ce qui m'a énervé, c'est que je veux dire, j'étais à la Migros, j'étais à la Coop, j'ai été chez Landy, j'étais à Hornbach, il n'y a plus de crèche. Des Pères Noël, vous en trouvez tout ce que vous voulez, quoi. Mais les crèches, il n'y a plus. Il y a un message. C'est un message. Et quelque part, on est dans ce message aussi. On grandit dans ce message, où finalement on veut évacuer Dieu, on veut garder que le merveilleux, les cadeaux, la lumière et ce genre de choses-là. Et on a fait des lumières, hein, à l'extérieur de l'Église parce qu'effectivement nous croyons à la lumière. Et nous croyons au message de la lumière. Hein. C'est Jean qui nous dit que la lumière est à lui dans les ténèbres, qu'elle est venue éclairer nos ténèbres. Et j'aime bien la notion de la lumière parce que les ténèbres ne sont pas le contraire de la lumière. La lumière, elle est matière, elle est vibration, elle est quelque chose, quoi. Les ténèbres, c'est l'absence. Et l'absence de crèche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Parce que la lumière, elle luit quand même dans les ténèbres. Et il suffit d'une étincelle, il suffit d'une allumette dans tout l'univers pour qu'on puisse dire que c'est plus les ténèbres. Vous comprenez? L'infiniment grand dans l'infiniment petit, juste une allumette. Et on ne peut pas dire que c'est les ténèbres. Parce que la lumière, elle est active. Et c'est ce que Dieu y fait. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Si on regarde un petit peu comment Dieu s'y prend, j'ai pris Noé là comme premier exemple, mais on peut remonter un peu plus haut avec Adam et Ève. Mais en fait, quand on regarde les messagers que Dieu a donnés, Noé a un message. Noé a donné un message au travers de la construction de son bateau. Il a dit, attention, Dieu va s'occuper de vous là. Maintenant, le seul moyen que vous avez, c'est de venir et de reconnaître, quoi. Alors, ils ont plutôt ri, hein, avec Noé. Et le résultat, on le connaît. Ah, à propos de Noé, une citation intéressante que je viens de lire, une étude d'un Barlois puis d'un Américain. Aux États-Unis, ils ont une banque de gènes de tous les animaux du monde. Il y en a quelques centaines des millions, je crois. Et puis, ils ont fait des tests génétiques et ils sont arrivés à la conclusion que tous les animaux modernes, ils ne sont pas plus âgés que 100 à 200 000 ans, génétiquement parlant. Vous allez me dire, attends, mais de quoi vous me parlez là? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, c'est que Noé avait raison. C'est qu'il y a bien eu à un moment donné quelque chose qui a été préservé, puis tout est parti d'un moment, quoi. Contrairement à ce qu'on nous enseigne dans la théorie de l'évolution. Alors ça vient de sortir, je ne sais pas comment ils vont intégrer ces nouvelles, comment ils vont vivre ces choses-là. Mais voyez, le monde est sans cesse dans des nouvelles. Et dans les nouvelles choses qui viennent, dans plein de choses qui viennent, quoi. Et finalement, ben, ces nouvelles qui sont là, ben, elles contredisent les nouvelles qui ont été données d'avant, quoi. Et moi, je dis merci au Seigneur parce que ces nouvelles, à lui, elles sont cohérentes. Et ça dure depuis des milliers d'années. Et il y a une fil rouge. Il y a un scénario qui tient la route. Il y a quelque chose qui est là-dedans, qui nous dépasse dans notre intelligence et dans notre rationalité, et qui, pour ceux qui veulent chercher, ils peuvent trouver. Mais pour ça, il faut être honnête et sincère. Et pas commencer à projeter nos a priori, nos idées préconçues, notre éducation, nos expériences sur ce texte, mais au contraire, laissons la parole devenir vie en nous et accueillons-la humblement et laissons-la faire son travail de transformation et de changement de notre intelligence. Et c'est cela que Dieu veut nous dire au travers de Noé, au travers d'Abraham. Dieu a choisi Abraham, j'en sais rien pourquoi. C'est un choix qu'il a fait. Il a décidé de se manifester au travers de lui. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est avec Moïse la même chose. Il a fallu un sauveur, une situation des siècles plus tard. Parce qu'entre Abraham, et puis là, il y a 500 ans, puis entre Noé et puis Abraham, alors ça, j'en sais rien. Certains ils disent qu'il y a peut-être 6000 ans en tout, quoi. Mais ça, c'est quand on prend les généalogies puis qu'on calcule. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus dans les périodes, dans des choses qui sont plus longues, quoi. Enfin, chacun sa foi. Et après, finalement, de Moïse est né toute la loi, le Lévitique, le Deutéronome, et puis toutes ces lois qui sont venues, qui déterminent un peuple. Si je regarde, moi, le peuple suisse, il est déterminé par la Constitution, par le Code civil, par le Code pénal, par tous ces codes qui sont là. Eh bien, finalement, ben, c'est ce que Moïse a reçu de la part de Dieu. Il y a eu un Code civil, il y a eu un Code pénal, et puis il y a même un Code religieux, dans le sens de comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu, quel est le but, finalement, de notre relation avec Dieu et comment on le vit. Donc voilà, je veux dire, maintenant, la laïcité veut qu'on mette le spirituel de côté pour ne garder que les lois civiles. Mais pour la Bible, c'est un ensemble. La relation à Dieu, la relation à soi, la relation avec son prochain. C'est les 10 commandements qui sont un petit peu dilués dans les textes que Moïse a donnés. Il y a Israël qui est né de cela, hein, on connaît, donc, où Israël naît de cela et devient le témoin de Dieu pour les nations, avec tout ce qui va se passer. Et aujourd'hui encore, chose incroyable, alors que Israël avait disparu pendant 2000 ans, voilà que Israël a de nouveau un plan prophétique à jouer pour les nations, conformément aux prophéties de la Bible. Moi, je trouve le scénario de Dieu juste génial. C'est le meilleur que je trouve, quoi. Le seul problème, c'est qu'on fait part de ce scénario. On est dedans. Et on est aussi dans ce message qui est inclus là. Bien sûr que finalement, le plus grand de tous les prophètes, hein, donc il y a tous les prophètes qui sont venus, qui ont annoncé. Je me souviens, moi, la première fois que j'ai lu Ésaïe, quand je me suis converti, quand tu m'as converti. Il faut que je change absolument, quoi. C'est lui qui m'a converti. Mais le premier livre que j'ai lu, c'était Ésaïe, parce qu'on m'avait dit que là, il y a les prophéties qui annoncent le futur. Puis en fait, tout ce que j'ai compris dans Ésaïe, c'est qu'on me parlait de Jésus. Je voyais Jésus partout. Alors que je n'avais jamais lu la Bible, en lisant Ésaïe, je comprenais qu'on me parlait de Jésus. Le Saint-Esprit en moi me disait, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, c'était incroyable, quoi. Enfin bref, quoi, tous les prophètes, et le plus grand prophète de tous les temps, Jean. Jean est le prophète de la transition entre l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Bien sûr que l'autre messager après, c'est Jésus, le Saint-Esprit, et toi et moi, dans cette chaîne. C'est comme ça que ça marche. Et finalement, Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et aujourd'hui, j'étais content d'avoir fait Joseph quand j'avais 6 ans. Bon, revenons à ce dernier messager qui est Jean. Là aussi, on parle des prophéties, hein, que Jésus a accomplies. Il y en a une centaine. Donc, il y a à peu près 100 prophéties que Jésus réalise dans l'Ancien Testament. Mais là, il y en a d'autres, quoi. Vous savez que Jean, il est déjà né, hein, avant Jésus. Il a 3 mois d'avance sur Jésus. Et ce Jean-Baptiste qui est venu, en fait, il est dans la famille de Jésus, puisque c'est un cousin éloigné. Et donc, il est aussi venu au travers de Zacharie, il a vécu quelque chose. Mais ce qui se passe, c'est que le dernier texte qu'on a dans la Bible, soit 430 ans environ avant Jésus, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui a parlé. 400 ans. Et pour les Juifs, c'était un silence, mais juste 400 ans de silence, où Dieu ne parle pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait. Quand on lit finalement les livres comme Maccabée, Tobie, Esther, etc., qui sont les apocryphes de l'Ancien Testament, on voit que Dieu a continué d'agir dans le peuple. Mais il n'y avait plus de prophètes reconnus qui étaient les porte-paroles, les messagers de Dieu, quoi. Et pour les Juifs, ça a été un moment très, très dur parce qu'ils se disaient, mais où est Dieu? Comment Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu parle, quoi? Et chose incroyable, quand on lit Malachie, je veux dire, quand on voit le dernier verset de l'Ancien Testament, 430 ans avant Jésus, vous savez quoi? Il annonce la venue de Jean-Baptiste et de Jésus. Et ça finit comme ça, l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans la tradition des Juifs, c'est que le jour de la Pâque, ils avaient toujours une place qui était libérée, libre pour accueillir le prophète Élie qui devait venir, basé sur ces textes, où le prophète Élie va venir. Et il va venir pour remettre de l'ordre, pour ramener les enfants aux pères, et puis les pères aux enfants, etc. Donc vivre quelque chose de nouveau dans le cadre d'une relation qui est là. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et soudain entrera dans son temple. Moi, j'ai mis la Pentecôte. J'ai mis la Pentecôte, pourquoi ? Parce qu'une fois que le messager a accompli son message et que Jésus a fait tout ce qu'il devait faire sur cette terre, eh bien, le Saint-Esprit est devenu témoigner, messager de Dieu en nous, pour finalement nous donner la force et les dons nécessaires afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem et autres. Donc pour moi, nous sommes devenus le temple. Jésus, Dieu, s'est arrangé pour que le temple soit détruit et qu'il n'y ait plus de sacrifice. Et en plus maintenant, ils ont mis une mosquée du dôme dessus et que si les Juifs voudraient la détruire, politiquement c'est incorrect. Et il y aurait des grosses conséquences. Mais c'est bloqué. Pourquoi ? Parce que le sang de l'agneau est toujours actif. Et il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de refaire des sacrifices. Et ça durera le temps que Dieu décidera que ça durera. Mais pour l'instant, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'Alliance. Le messager de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Moïse était dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Messager, c'est incroyable. Malachie, 430 ans avant, il prophétise une nouvelle alliance et qui rentrera dans cette plénitude-là et qu'il y aura un messager qui préparera le chemin et puis finalement que le Seigneur viendra. Si on continue dans Michée 4, 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères et de leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Là, je vous ai mis l'image d'Élie parce qu'Élie est un prophète un peu particulier parce qu'il n'est pas mort. Il a été enlevé dans le ciel, comme Jésus. Jésus, il est ressuscité en fait. Il est mort, il est ressuscité, puis il est parti dans le ciel à l'ascension. Élie, lui, il n'est pas mort, il a été enlevé dans le ciel. Donc là, la tradition, on pense que Élie est un de ces prophètes qui doit revenir et qui devait revenir pour finalement vivre son cycle sur la terre. Ça, c'était la pensée des Juifs. Et c'est pourquoi ils l'attendaient, selon ce texte ici, qui est la fin de l'Ancien Testament. Et c'est Élie qui devait venir. Maintenant, quand on voit finalement ce qui se passe dans Luc 1, 13, ça c'est maintenant 430 ans plus tard, on arrive finalement à la naissance de Jean-Baptiste. Et quand l'ange apparaît, donc à Zacharie, dans le temple, à l'endroit où il devait sacrifier devant l'autel des parfums, voilà qu'un ange vient vers lui et lui annonce comme quoi il va avoir un enfant. C'est cette annonce. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Qu'est-ce que Jean a fait dans son ministère ? Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous, ça veut dire quoi ? Reconnaissez la justice de Dieu. Reconnaissez que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même, mais Dieu veut faire ce travail en vous. Alors repentez-vous, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Et le contexte de Malachie, quand on regarde le contexte de ce prophète, c'était terrible. Parce que les gens, ils disaient, mais finalement, bon, est-ce que ça sert encore à quelque chose de servir Dieu ? Qu'est-ce que je reçois de la part de Dieu ? Je fais mes sacrifices, je donne ma dîme, je vais au temple, et ci et ça, mais ma vie, c'est toujours pas terrible, quoi. Et les choses n'arrivent pas comme j'ai envie. Puis vous savez comment c'est, quoi. On laisse tomber, on abandonne, on lâche, quoi. Et finalement, même les prêtres ont lâché. Et il y a le reproche de Malachie qui dit ça très clairement, je veux dire, au peuple et aux prêtres. Il dit, mais en quoi est-ce que Dieu vous a fatigué ? En quoi est-ce que Dieu n'a pas répondu à vos besoins et autres, quoi? Puis là, vous dites, ah, mais ça ne sert à rien de te servir. Moi, je vois les méchants, ils prospèrent. Ils ont de plus en plus de milliards. Ils réussissent. Quand on voit tout ce qu'ils font dans leur vie, tout réussit. Puis moi, Seigneur, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai comme frustration et autres? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je te serve, Seigneur? La Bible, elle dit, non, Malachie aussi dit, c'est tenter Dieu, ça. Comprenez? C'était leur mentalité, c'était là. Mais Seigneur, depuis le temps qu'on entend parler de toi, depuis le temps que je viens dans l'église, depuis le temps que je paye ma dîme, depuis le temps que je fais des sacrifices, depuis le temps que je viens ici à l'église, à quoi ça sert? Ma vie, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement, je suis toujours au même niveau. À quoi ça sert quand je vois mon voisin, quand je vois dans ma famille un tel qui réussit et ça, 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 et il ne t'honore pas, il ne te glorifie pas? Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps de penser comme ça. C'était le contexte de Malachie. Et dans ce contexte-là, Dieu, il dit, je vais envoyer ce messager qui ramènera ces gens avec la puissance d'Élie pour les ramener au Père. Qui ramènera les enfants au Père et le Père aux enfants. Remettons Dieu à sa place dans nos vies. Remettons Dieu à sa bonne place. Et servons-le sans râler. C'est possible? Que tous les râleurs disent Amen. Afin de préparer un peuple bien disposé. C'est ça. Et ça a été le ministère de Jean-Baptiste. Il est venu pour tous les râleurs. Pour tous ceux qui, au bout de 430 ans, ça fait long, hein, 430 ans, vous pensez que vous, vos quelques mois, vos quelques années, vous attendez sur que Dieu il va faire quelque chose dans votre vie où les promesses vont s'accomplir. Là, il y a eu 430 ans de silence. Donc, on peut comprendre que pour les Juifs, ce n'était pas du tout évident, quoi. Et ce n'était pas simple. Enfin, bref, quoi, repentez-vous et soyez baptisés. Dans ce sens-là, même Jésus a été baptisé, on connaît. Hein. Matthieu 17, 10, les disciples lui firent cette question. Donc, il faut vous imaginer le contexte de nouveau. Jésus, il est en transfiguration, il voit Moïse et Élise. Il y a Pierre qui dit, oh, c'est génial d'être là, tu veux qu'on fasse une tente pour qu'Élie dorme? Attends, Pierre, tu n'es pas tout à fait dans ton assiette là. Hein? Je veux dire, mais il était comme ça, Pierre, dans son enthousiasme. Quoi. Tu penses, Moïse et Élie, oh, avec Jésus, en train de discuter ensemble. Waouh, j'aurais voulu voir ça, vous pas? Hein? Je veux dire, tu es en train de se dire, waouh, incroyable. La prophétie se réalise, Élie est là, quoi. Et donc, ils redescendent de la montagne, Jésus leur dit, non, ça, vous ne le dites à personne. Au moment marqué, vous le direz, mais là, vous vous taisez. Quoi. Et puis là, ils posent des questions. Je dis, ouais, mais alors, les scribes, là, nos enseignants, là, nos docteurs en théologie, ils nous disent qu'Élie doit venir. Mais c'est quoi cet Élie, alors? Puisqu'on vient de le croiser. Et il est là, il n'est pas là. Comment c'est... Et là, Jésus leur répond. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis, qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ce n'était pas évident. Vous savez, il y a un autre verset qui nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Vous croyez que, je veux dire, la naissance de Dieu dans une étable, ça frappe le regard? Quand ce coquin d'Hérode reçoit les rois mages, et puis que Hérode, qui a tué sa femme préférée et ses deux enfants simplement parce qu'il y avait un soupçon de complot contre son pouvoir, puis que les astrologues ou les mages viennent vers Hérode et disent « Écoutez, on aimerait venir adorer le roi des Juifs. » Hérode, c'est moi le roi des Juifs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une nouvelle rébellion? Là, il joue rusé. Il dit « quand vous saurez où il est, s'il vous plaît, dites-moi où il est pour que moi-même j'aille l'adorer. » Heureusement que le Seigneur, il connaît toutes ces choses, toutes ces circonstances et ces situations compliquées. Dieu est le maître du temps, le maître de l'histoire, le maître de tout. Et il sait, il connaît. Et il l'annonce, il dit exactement ce qui va se passer. C'est pourquoi j'ai mis Jean-Baptiste qui a été décapité pour une danse, et puis Jésus pour 30 pièces d'argent, qui était le salaire d'un mois de salaire. Donc, si on prend le salaire médian suisse, c'est 6 500. Si on prend le SMIC, c'est 1 400 euros. Et puis voilà, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Voilà la valeur de Dieu. à quoi on a jugé la valeur de Dieu. Donc, si on continue maintenant un peu les prophéties, dans Ésaïe 52, en tant que porteur de message, il nous dit, voilà, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » C'est qui ? Le messager de la bonne nouvelle qui va être envoyé. C'est qui les pieds de Dieu sur terre à ce moment-là ? Jean-Baptiste et Jésus. Les deux messagers. Bonne nouvelle, en grec, évangélion. Ce qui a donné évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce que Jésus a fait à la croix, par sa naissance, son humiliation, son humilité, et tout son ministère et tous ses enseignements, c'est une bonne nouvelle. Dieu veut réconcilier le monde avec lui. Et il offre à tous les hommes sur cette terre de faire la paix avec lui-même, avec son prochain et avec soi-même au travers du sacrifice de son fils Jésus qui a été annoncé, qui a été combien de fois mis dans le temple où l'agneau pascal a été sacrifié chaque année une fois où le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et où il devait aller sur le tabernacle. Et il faut vous imaginer ce coffre qui était là avec les deux chérubins dessus. Et puis sur le tabernacle, il y avait un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. À l'intérieur, dans le coffre, vous savez ce qu'il y avait ? Il y avait les tables de la loi et quoi ? Le bâton d'Aaron et quoi ? La manne. Bon, du temps de Jésus, il n'y avait plus rien de tout ça, hein, je veux dire, on est bien d'accord, quoi. Mais symboliquement, on comprend bien, quoi, je veux dire. Il y avait l'autorité d'Aaron par lequel, finalement, c'est le symbole de l'autorité dans lequel Dieu donne la prêtrise à Jésus. La manne, c'est le pain de vie que Dieu veut donner à tous les hommes. « Je suis le pain de vie », a dit Jésus. Dieu a donné pour vous le pain dans le désert pour vous nourrir, mais il vous donne un autre pain, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole que Dieu aura prononcée. Et voilà que cette tabernacle qui est là, avec la loi qui nous condamne, parce qu'elle nous dit qu'on est des pécheurs, eh bien, je veux dire, le souverain sacrificateur, quand il arrivait à cet endroit-là, il devait asperger, je veux dire, du sang de l'agneau dans cet endroit-là. Et selon la tradition rabbinique, Dieu parlait directement à Moïse dans le trou qui était là au milieu. Et où Dieu parlait, la voix sortait de cet endroit-là. Parce que l'image que Dieu a donnée au travers de la construction du tabernacle, et c'était ce propitiatoire, le sang qui couvrait les péchés de la loi et de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu qui venait pour pardonner. Et ça, c'était fait depuis des années, depuis le temps de Moïse. Et Jésus, c'était l'agneau de Dieu qui est venu pour pardonner les péchés pour tous les hommes. Tous sont au bénéfice du pardon de Dieu. Tous. Il n'y en a pas un qui ne peut pas être au bénéfice du pardon de Dieu. Tous les hommes sur cette terre sont destinés à connaître le pardon de Dieu. Alléluia ! Tous. Il n'y a pas un qui n'est pas destiné au pardon de Dieu. Pas un. Maintenant, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, viens, agis au travers de moi. Saint-Esprit, viens, parle-moi, touche-moi, aide-moi d'être ton messager, ton témoin. Aide-moi dans ma famille à être ce témoin que tu attends de moi, que je dois être. Peut-être par mon comportement, par mes paroles, par mon attitude, par mon courage d'affronter les situations difficiles. Peut-être par des paroles d'encouragement, de soutien, peut-être par des aides pratiques que l'on peut peut-être apporter à sa maman, à son papa ou à sa famille. Il y a tant de manières d'être messager. Tant de manières d'être porteur du message du Christ en nous et de continuer l'œuvre de réconciliation que Dieu veut à donner à tous les hommes au travers de Jésus maintenant. C'est ça la bonne nouvelle, l'évangélion qui publie la paix et qui nous offre finalement le salut. Et chose incroyable, quand on lit Ésaïe 52, quand on lit Ésaïe 53, nous avons quoi ? La prophétie de l'Ancien Testament qui parle exactement de ce que Jésus aura à accomplir dans sa vie, ce pourquoi il a été fait. Ce prophète qui va être mis à mort et qui va donner la vie et qui va porter finalement le péché de nous tous. Vous savez, une des grandes révélations que j'ai eues dans ma vie, ça n'a pas tout de suite été comme ça parce que quand j'ai rencontré Dieu, j'ai vraiment rencontré la paix, l'amour et la joie. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. C'est que plus tard que j'ai compris la nature du péché et de ma nature. Oui, je savais que j'étais pécheur. Je le savais. pas un gros pêcheur, un petit pêcheur, il y en avait tellement des plus grands que moi, quoi. Alors, j'avais des petits péchés, ce n'était pas bien grave. Mais je n'avais pas compris la nature de mon péché. Et un jour, j'ai eu une vision. Et ça a été une vision atroce. C'était une vision où tout d'un coup, j'ai vu mon corps qui allait crucifier Jésus. Puis moi, au-dedans de moi, je hurlais. Je disais, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Arrête, arrête. Je ne pouvais rien faire. C'était boum, boum, boum. C'était l'horreur. L'horreur. J'étais complètement schizophrène entre ce que mon corps il faisait et puis ce que moi je voulais. Ce n'était pas la même chose. Mais là, j'ai compris. J'ai compris que c'est moi qui ai tué Jésus. J'étais coupable d'avoir rejeté Jésus, d'avoir rejeté le salut de Dieu, d'avoir rejeté le seul qui finalement, je veux dire, m'a tendu la main dans ma vie et qui le seul vraiment avait un message de vérité, un message de vie, un message d'amour. Mais je n'avais pas compris que ma nature, elle s'opposait à ce message de manière naturelle. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est Dieu qui m'a converti. Je ne me suis pas converti, c'est Dieu qui m'a converti. C'est un cadeau de Dieu. Et je pense que vous tous qui êtes ici, sincèrement, Dieu vous a fait ce cadeau. Vous n'êtes pas converti par vous-même ou parce que vos parents se sont convertis ou parce que vous êtes né entre deux pages de Bible. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça devienne vivant le message en vous. Et ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une habitude. Dieu n'a pas de petits-fils ou de petites-filles, Dieu n'a que des filles et des fils. Et nous sommes tous appelés à naître de nouveau. Alors le processus peut être comme ça ou alors il faut du temps. Pas grave, l'essentiel, c'est de naître de nouveau et de laisser Dieu nous toucher, de devenir automatiquement, quand on laisse le Saint-Esprit agir en nous, on devient automatiquement des messagers. Alors bien sûr qu'un bébé, il n'est pas tout de suite messager. Jésus, il a attendu 30 ans avant, mais il était déjà là. On le voit hein, à 12 ans quand il est dans le temple en train de discuter. On voit que ça bouillonne déjà au-dedans de lui. Il y a déjà des choses qu'ils font, mais il rentre dans son ministère à 30 ans parce que c'était l'âge légal où les lévites, les prêtres, pouvaient commencer à agir dans le temple et étaient choisis pour aller servir dans le temple. C'est un âge de 30 ans qui commence de 30 à 50. Ils pouvaient servir dans le temple, donc Zacharie aussi. Il avait entre 30 et 50 ans, il était là, plutôt sur la cinquantaine. Et où il servait Dieu quand il a reçu la révélation de cet ange, qui lui a dit, ok, voilà, tu auras un fils. Et puis après, plus tard, Marie, qui aura aussi ce même ange, qui viendra pour lui annoncer la venue du Messie. Tout est écrit. Tout est déjà donné. Tout est déjà fait dans l'Ancien Testament. Les amis, donnez-moi un scénario plus complet que celui-là, je veux dire, dans l'histoire, de toutes les histoires des religions. Ce qui fait la différence fondamentale entre le christianisme et les autres religions, c'est justement cette capacité prophétique. Et où Dieu dit, moi je suis le maître de l'histoire. Et trouvez-moi quelqu'un d'autre qui est capable. Alors bien sûr, il y a des Nostradamus, il y a des prophètes, il y aura les astrologues en fin d'année qui vont vous dire ceci et puis cela et tout quoi. Mais attendez là, ce n'est pas juste pour une année. Là, c'est des siècles et c'est des millénaires. Et non seulement c'est des siècles et des millénaires, mais c'est des civilisations entières qui ont passé. Les Grecs ont passé, les Égyptiens ont passé, les Babyloniens ont passé, les Sumériens ont passé, les Akkadiens ont passé, les Hittites, qu'on ne savait même pas que ça existait, mais qui étaient que dans la Bible, ils ont retrouvé enfin les traces en Turquie, qui était un grand empire hittite. Et pendant longtemps, les gens ils ont dit, la Bible, ça ne vaut rien, ils parlent de nations qui n'existent pas. Et on a retrouvé, ça existe. Mes amis, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir la foi avec certitude, la confiance, que le message que nous partageons est le message de vie pour tous les hommes sur cette terre. Et Dieu veut vous convaincre, mais seulement vous devez aussi vous approcher de Dieu. Et le fait que vous veniez le dimanche matin régulièrement, c'est votre manière à vous de vous approcher de Dieu, en plus de ce que vous pouvez faire à la maison par la lecture, par la prière, en prenant du temps de lire la Bible. Vous savez, moi, la Bible, je ne comprends pas tout. Est-ce que vous arrivez à tout comprendre? Je me souviens au début, j'avais des contradictions dans la Bible, puis on me disait, ben, tu vois, la Bible, elle se contredit. Elle dit ça, et puis elle dit ça. Je dis, puis moi, je ne comprenais rien au départ. Je me dis, mais c'est vrai, pourtant, j'ai confiance, je crois que c'est juste, quoi. Puis il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre un peu le contexte, les situations, quoi. Je me souviens d'un argumentaire qu'un gars qui m'a dit, et puis qui m'avait troublé à l'époque, c'est qu'il m'a dit, ouais, mais. Quand on regarde le récit de la résurrection de Jésus, Il y en a un qui dit, l'ange, il apparaît là. Et puis, il y en a un autre qui est là. Et puis, une fois, il y en a un, une fois, il y en a deux, une fois, il y en a un qui est dedans, et une fois, il y en a un qui est dehors, quoi. Alors, ils ne sont même pas foutus de se mettre d'accord entre eux. Puis moi, j'étais là, je me dis, oulala, ouais, c'est vraiment objectif, leur truc, là, je dirais. Donc, ils n'ont même pas réussi à se coordonner entre eux, quoi. Et moi, je me disais, mais ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique. Je disais au Seigneur, écoute, je ne comprends pas, je ne vois pas, mais je te fais confiance. Des années plus tard. Ça, c'est fort, hein, ce que je vais vous dire. Quand un policier fait un constat de témoignage d'accident, le 60% des témoignages ne coïncident pas. Parce que chacun donne son point de vue et son opinion, quoi. Ok, je réfléchis. Parce que Dieu nous a tous donné un cerveau 1,4 kg. Les femmes un peu plus petites, mais plus performantes. Je réfléchis. Je me dis, Seigneur, tu as été assez bon pour qu'il n'y ait personne qui trafique les évangiles, pour que tu respectes les différentes sources de témoignages, parce qu'il y avait Marie-Madeleine, et c'était quatre Salomé, et suivant qui donnait son témoignage, a donné son témoignage en fonction de comment lui avait vu les choses. Vous comprenez? Bien sûr qu'on a perdu la construction, qu'on a perdu les origines, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais ça me dit que, d'accord, ils ont été assez respectueux, parce qu'ils n'étaient pas plus bêtes que moi, ceux qui ont fait les évangiles, hein. Attendez, moi j'aurais plutôt une tendance à vouloir bidouiller les machins puis à faire tout coordonner de manière ou d'une autre pour que les choses soient justes, quoi, entre parenthèses. Non. Là, les auteurs des évangiles, ils ont été honnêtes, ils ont été corrects. Et ils ont gardé les traditions, ils ont laissé les différences, quoi, pour nous montrer que ce qui s'est bien passé là derrière était authentique et non pas trafiqué. Aujourd'hui, quand on parle des fake news, quand on parle de tout ce qui est trafiqué, de tout ce qui est fait d'une manière ou d'une autre, je bénis le Seigneur de ce que notre Bible n'est pas une fake news, mais que ce genre de détails me donne encore plus confiance aujourd'hui dans la qualité de la retranscription des évangiles que si on avait tout bidouillé pour arranger les choses. Vous comprenez? Tout est une question de point de vue, tout est une question de compréhension, tout est une question d'attitude. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Faisons-lui confiance. Laissons Dieu agir en chacun de nous. Et que nous puissions devenir porteurs des messagers de la bonne nouvelle de Jésus, conformément à ce que Dieu veut de chacun de nous. Vous êtes tous des enfants de Dieu, vous êtes tous des porteurs du message. Et ce trésor ne vient pas de vous, il est de Dieu. Vous êtes des vases de terre, vous êtes des vases d'honneur, des vases de ceci, mais ce n'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Et vous êtes tous riche de l'amour de Dieu dans vos vies. Vous êtes tous au bénéfice de son amour, vous êtes tous au bénéfice de sa grâce, vous êtes tous au bénéfice de son appel, et vous pouvez aller dans ces fêtes de Noël en transmettant à votre famille la bonne nouvelle de ce Sauveur qui est venu pour sauver toute l'humanité, et encore à bien plus forte raison, nos familles, nos voisins, et tout le monde, tous ceux qui d'un cœur pur et sincère cherchent Dieu, ils peuvent le trouver. Amen. Seigneur, on te dit merci parce que tu as choisi des messagers. Tu as choisi des messagers tout au long de l'histoire. Depuis des millénaires, tu as fait ça. Et aujourd'hui, Seigneur, nous comprenons que nous sommes devenus les porteurs de cette bonne nouvelle et que nous avons, Seigneur, la mission de la transmettre, d'aller plus loin, Seigneur. Je n'ai pas compris pourquoi ce jeune est parti dans cette île pour se faire tuer, où il a voulu amener ton évangile, puis il savait que cette tribu était hostile et il est mort. On peut penser à quelque chose de stupide, mais dans la réalité, il a obéi à ton ordre. Alors, est-ce que c'était ton plan, pas ton plan, j'en sais rien, mais il a obéi, il a allé de l'avant. Comme mes frères et sœurs en Syrie, comme mes frères et sœurs dans les endroits de persécution, comme en Chine ou ailleurs. Seigneur, moi, j'aimerais te dire merci parce que où que tu nous places, tu nous as placés comme témoins de ta vérité. Et nous sommes tous porteurs de ce trésor. À nous d'en prendre soin et à nous de le faire grandir par la foi qui est la confiance en toi. Et on te remercie, Seigneur, pour ce moment de partage ce matin, ce moment où ta parole vient encore nourrir notre certitude, notre foi et nous encourager à te faire confiance et à te laisser être le premier dans nos vies. Alors merci, Jésus, d'être venu sur cette terre, dans une simple nature d'homme comme la nôtre, et où tu as passé par toutes les étapes de la maturité, et où finalement tu as donné ta vie pour chacun de nous. Seigneur, merci parce que c'était toi, Dieu, toi-même qui es venu en Jésus pour nous parler les yeux dans les yeux. Et nous avons accueilli ce message, et nous l'accueillons encore aujourd'hui, et nous désirons le transmettre plus loin. Merci, Saint-Esprit, de nous accompagner dans ce témoignage de tous les jours, dans ce que tu nous appelles à être et à faire pour toi et pour ta gloire seule. Amen.